Vous écoutez
RMC.
Messieurs, J-2 avant PSG Aston Villa, le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa, c'est la finale de la Supercoupe. Ça sera à suivre évidemment sur RMC en direct dès 21h mercredi en direct de Salzbourg. Et nous allons parler de ce match. Une petite information, vous le savez, hein, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, mais c'est toujours un joli clin d'œil. L'arbitre de cette finale, ouais, c'est l'arbitre somalien Omar Artan qui avait été refoulé des États-Unis alors qu'il avait normalement évidemment le droit d'être un des arbitres officiels de cette Coupe du Monde.
Arbitre CAF de l'année 2025 aussi.
Exactement. Et donc au final, il avait été interdit de fouler le sol américain. Et derrière, on avait appris que donc l'UEFA lui proposait de d'arbitrer ce match ô combien important. Il a dit que c'était très important pour lui, qu'il avait eu une période très difficile et qu'aussi il avait eu beaucoup de témoignages de sympathie de la part de nombreuses personnes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On rappelle pour les amicaux du côté du PSG, il y a eu la défaite 3-0 face à Mallorca, il y a eu le nul, un but partout face à United.
C'est pas bon ça, Karine, c'est vraiment pas bon ça, ces matchs de préparation.
Mais c'est des matchs de prépa. Bah non,
bien sûr, c'est pas bon, c'est-à-dire.
Ah non, je suis ironique.
Les résultats, ah oui, d'accord.
Ouais. Et du côté d'Aston Villa, il y avait une défaite. Fait 2-1 face au Bayern Munich. Est-ce que pour vous le PSG est prêt ou ça va être peut-être le scénario comme la saison passée où ils avaient galéré puis finalement voilà, la saison magique avait déjà débuté face à Tottenham avec une première victoire à l'arrache.
Non, la réponse elle est simple, le PSG n'est pas prêt, mais sa principale garantie, son principal passeport, c'est sa haine de la défaite. C'est la compétitivité qu'a le PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique en 2023, en déplaçant des montagnes, en se donnant jamais perdu d'avance. On a l'exemple concret l'année dernière, quand tu perds 2-0 contre Tottenham, t'arrives à remonter à deux partout. Et même dans la séance de tir au but, tu démarres mal, mais tu finis quand même par gagner. Donc voilà, c'est ça le PSG version Luis Enrique, une équipe qui refuse la défaite. Et mercredi, malgré toutes les contraintes des joueurs, les derniers qui sont arrivés ce matin du côté du campus du PSG. Moi, je m'attends à un PSG compétitif qui va vouloir chercher à faire le back-to-back également en Supercoupe d'Europe.
Tout le monde est dispo, en tout cas, même si évidemment les formes sont très disparates, mais tout le monde est là.
Oui, oui, tout le monde est là. Bon, je pense qu'on risque de voir des joueurs titulaires, d'autres non. Après, juste pour rebondir sur Aston Villa, ils ont d'ailleurs commencé leur premier match amical le 21 juillet. Donc, c'est 7 jours avant la reprise du Paris Saint-Germain. C'est pour te dire.
Ouais, ça c'est très Unai Emery. Avoir énormément de matchs de prépa.
Amico, sachant qu'ils se sont fait laver, hein, je crois, contre la Sociedad, contre le Bayern Munich et peut-être même contre Porto. Ils ont gagné des matchs. J'avais regardé un petit peu contre des équipes un peu plus faibles, mais contre les grosses équipes, ça a été un peu plus compliqué. Et puis surtout, Aston Villa, on parle du Paris Saint-Germain, on va y revenir un peu plus tard, mais Aston Villa, c'est compliqué aussi pour eux. Hein. Ils ont perdu quand même des joueurs importants, notamment Morgan Rogers, Luca Digne, Tillmans, qui a signé du...
Ouais, le primeur Aston Villa a été attaqué très clairement.
Exactement, tu perds Onana aussi sur blessure pendant cette Coupe du Monde, donc je ne sais pas quel Aston Villa, déjà, on va retrouver avant de parler du Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, c'est toujours un match un petit peu particulier, parce que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est l'actuel entraîneur d'Aston Villa, Emery, va forcément vouloir prendre sa revanche entre guillemets sur son ancien club. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Du côté du Paris Saint-Germain, tu as en effet beaucoup de retours. Maintenant, l'effectif est au complet, mais j'imagine que les joueurs qui sont arrivés hier ne vont pas forcément commencer le match. Après, quand tu regardes un petit peu, tu as des indications. Quand tu vois le dernier match contre Manchester United, je pense que le 11 titulaire du Paris Saint-Germain contre Aston Villa risque d'être intéressant. Alors peut-être que la ligne d'attaque, je me pose encore des questions.
Tu dessines comment le 11 de départ?
Mais alors tout dépend si Marquinhos non va jouer. Parce
Marquinhos, je pense qu'il démarre sur le banc.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors tu as ce match contre Aston Villa et quelques jours plus tard, tu as ce match contre Lens. Donc en fait, c'est à Luis Enrique de trouver une balance entre ton titulaire contre Aston Villa et celui que tu vas mettre contre Lens. Est-ce que tu privilégies un match? Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier cette finale de Supercoupe, justement? Est-ce que ça a un peu plus de valeur que cette finale contre le Racing Club de Lens? Je pense que oui. Alors comment je définis et comment je dessine ce Paris Saint-Germain? J'imagine que Safonov va être titulaire. Pacho risque de jouer. Est-ce que tu mets Zabarnier à droite et alors tu fais rentrer Marquinhos? Est-ce que tu prends justement le risque de faire jouer ton capitaine, le Marquinhos, qui est l'un des plus âgés, enfin qui est même le plus âgé de
l'effectif. Qui a fait une bonne rentrée contre Manchester.
Qui a fait une bonne rentrée, je ne pense pas, pour être honnête. Je pense que Zabarni risque de jouer avec Pacho à gauche. Et puis le petit Boli qui a fait deux très bons matchs, et notamment contre United. Après, Nuno Mendes est rentré assez tôt. Les Portugais sont rentrés assez tôt. Hein. Vitinha, Nuno Mendes, est-ce que tu mettrais un Beraldo? C'est surtout devant que je me pose la question. Est-ce que tu mets un Mayulu? Le quid du cas du petit Mbaye? Voilà, on sait que
qui a été le plus performant contre Manchester.
Ça a été très très compliqué là son intersaison. On va parvenir sur un petit peu le feuilleton. Je pars, je reste. En tout cas, il a joué contre Manchester United et je pense qu'il sera titulaire aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais quand tu regardes là sur les joueurs que je t'ai donnés, honnêtement, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Surtout si on parle d'un Aston Villa qui est déforcé, qui a fait une préparation plus que moyenne. Je vois pas le Paris Saint-Germain être inquiété contre Aston Villa.
Moi, je suis d'accord. Le rapport de force, il est déséquilibré en termes de talent et il est en faveur du PSG. Quand bien même il y a des contraintes liées à la préparation, liées au retour tardif, mais t'as de quoi construire une équipe compétitive. Moi, le trio d'attaque, je le vois avec Ibrahim Bay, Mayulu dans un rôle de faux neuf, Varachea sur le côté gauche. T'auras les Portugais au milieu terrain avec Neves, Vitinha, et je sais pas qui pourrait l'accompagner.
Tu peux même mettre Drou Fernandez.
Hein, peux mettre Drou Fernandez et charnière centrale. T'auras Zabarni, Pacho, mais t'auras et Nuno Mendes latéral gauche. T'auras quand même une équipe compétitive et pour moi le PSG est clairement le favori face à Aston Villa.
Clairement le favori, s'ils ont moins de préparation.
Alors oui, Aston Villa a beaucoup joué. Ça c'est vrai, ils ont beaucoup joué, ils ont démarré la préparation beaucoup plus rapidement, mais il y a eu ils ont perdu des joueurs, Lucas Digne par exemple est arrivé du côté du PSG. Ils ont également Emiliano Martinez qui a repris l'entraînement il y a très récemment je crois. Aujourd'hui, tu as Ezri Konsa pareil. Donc eux ils arrivent aussi avec les contraintes liées à la Coupe du monde.
Bien sûr, mais tu as trop de talent au Paris Saint-Germain pour te faire battre contre Aston Villa. Alors tu sais jamais, en effet, c'est le premier match officiel de la saison, tu sais pas exactement dans quel état de forme certains joueurs vont être, notamment parce que ça fait quand même deux grosses saisons hein, lorsque tu regardes. Si en plus de ça tu rajoutes la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, tu rajoutes la Coupe du Monde cette année pour les internationaux, mais je vois vraiment pas le Paris Saint-Germain se faire embêter par Aston Villa. Ce qui serait intéressant de voir justement, c'est juste cette ligne d'attaque. Moi c'est vraiment le point d'interrogation que j'ai par rapport à Mayulu. Est-ce que tu fais jouer Mayulu en tant que faux numéro 9? Est-ce que tu fais jouer Mbaye, Gvara qui n'est pas parti à la Coupe du Monde, qui risque d'être en grande forme, tout comme Zabarni. Zabarni d'ailleurs qui a été bien meilleur. Hein.
J'ai pensé à toi sur le deuxième match.
Pour les gens qui ont suivi l'after l'année dernière, je suis vraiment pas un grand fan de Zabarni. Bon, il est fautif sur le deuxième but contre Mallorca, hein, je
crois. Il est trop optimiste sur
mais même physiquement, je le trouve un peu plus fin. J'ai le sentiment qu'il a perdu un peu de poids. J'attends de voir. Est-ce que ça serait pas la saison de rédemption pour Zabarni? On parlait de l'adaptation.
Une petite saison d'adaptation.
Il y a aussi le prix du transfert sur sa tête, c'est pas facile, mais tu vois, ça c'est aussi le joueur que je vais suivre cette année, notamment.
Il y aura toujours
Villa,
ce problème de contexte tactique. Maxime l'a évoqué très longtemps la saison dernière, sa mobilité dès lors qu'il arrive dans un contexte de 1 contre 1. Ça, c'est un écueil qui va être
très important. Si tu perds un peu de points, c'est déjà pas la même chose. Hein, quand
c'est
tu
vrai,
perds des points,
mais il faudra éviter ce genre de contexte.
Non, c'est clair. Après, on en avait parlé l'année dernière, mais c'est vrai qu'il était dans une équipe à l'époque qui défendait quand même en bloc médian, voire même bloc bas. Il se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui va chercher très haut avec justement énormément de profondeur dans son dos. C'est vrai qu'il n'a pas forcément le profil en tout cas pour courir et essayer de rattraper en tout cas les attaquants. D'ailleurs, contre Mayer qui s'est fait prendre deux ou trois fois. Mais en règle générale, sur les deux matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé beaucoup mieux que l'année dernière.
Surtout qu'avec Iraola, ça défendait davantage en individuel. Donc c'était une défense qui était très particulière, une défense entre une approche bielsiste. Là, il arrive sur une autre approche avec Luis Enrique et peut-être que son logiciel foot n'était pas encore prêt.
Ouais, à voir.
On suivra en tout cas donc cette finale de Supercoupe sur RMC. On rappelle, coup d'envoi 21h entre le PSG et Aston Villa et ça se joue à Salzbourg. On voulait également parler de un petit souci aux yeux d'Elton, c'est l'instabilité des gardiens en Ligue 1 qui t'inquiète. C'est ton avis tranché.
Nico, moi j'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok c'est très bien, mais à un moment donné... sa carrosse, sa chaussure, ce que c'est.
Il est extraordinaire ce jingle.
J'ai pas compris pourquoi il m'a interrompu ce Nico Jamin.
Elton, nous parlons pas de carrosse, nous parlons pas de chaussure, on va parler des gardiens de Ligue 1 parce qu'il pourrait y avoir à nouveau un turnover à ce poste ô combien important et tu trouves que c'est un petit peu inquiétant.
Mais moi, j'avoue que Karine, je suis perdu, moi, parce qu'on nous explique que la stabilité chez les gardiens, c'est quand même très important. On a des gardiens qui peuvent s'inscrire dans la durée, mais il se trouve que en ce qui concerne la Ligue 1 et principalement le haut du tableau, c'est pas nécessairement le cas. Et on est encore une fois sur un été où on a fait beaucoup d'émissions, notamment pour repasser de l'actualité des équipes, des clubs, des joueurs, etc., etc. Et à chaque fois, on a été confronté à la question du gardien. Et moi, ça m'inquiète parce que moi, je pense que ça devrait être un acquis. Mais il se trouve que, par exemple, au PSG, il y a des débats autour du rôle de gardien. On parle d'arrivée de Suzuki en provenance de Parme. Donc, ce qui te laisserait faire dire que Safonov n'est pas forcément légitime pour toute une saison. Ensuite, on a l'Olympique de Marseille avec Geronimo Rulli qui est en partance, mais ça ce serait davantage par rapport à une donnée économique. Donc encore une fois, instabilité au poste de gardien avec Delange qui pourrait reprendre le lead. Ensuite, on a Lille avec Auser qui a pas forcément été satisfaisant, on parle de l'arrivée notamment de Moridio. Lyon, on a parlé avec Dominique Greff qui a pas été forcément rassurant
mais qui a fait une bonne saison l'an dernier.
Et ce que je veux dire par là, c'est que cette instabilité du côté des gardiens et notamment cette incapacité justement à être dans un premier temps stable et surtout être performant, moi c'est un problème et ça pourra avoir un impact sur la saison à venir, sur la saison 2026-2027. Ou encore une fois, je n'écarte pas l'idée que les gardiens qui sont théoriquement les titulaires au départ ne le soient pas à l'arrivée parce qu'il peut y avoir encore un turnover. Et moi, il y a des clubs, on vient de l'évoquer, que ce soit le PSG, que ce soit Lille par exemple, qui pourraient être susceptibles d'être touché. Et donc aujourd'hui, c'est une instabilité qui, pour moi, est toute récente. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié à différentes questions, des gardiens très importants qui sont partis, qui n'ont pas été forcément bien remplacés. C'est une question peut-être conjoncturelle avec des gardiens qui aiment, ou plutôt des entraîneurs qui aiment bien s'appuyer sur une doublette de gardiens au nom de la performance. Mais toujours est-il que pour moi, à l'instant T, ça ne profite pas notamment au haut du tableau et notamment ces clubs qui ont vocation à être performantes en Ligue 1 mais aussi en Coupe d'Europe.
Maxime, moi je vais prendre le contre-pied. Est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle? Par exemple Lille, effectivement, Auser a pas vraiment endossé ce rôle de numéro 1 et la suite de Lucas Chevalier. On a vu la même chose pour Marseille avec Rulli, première saison très bonne où on s'est dit c'est incroyable, c'est le gardien qui nous surprend, on n'avait pas souvenir d'un tel niveau de la part de Rulli, et puis finalement la saison 2 elle a été beaucoup moins bonne. Est-ce que finalement c'est pas bien que tout de suite ces clubs se disent bon ben voilà, on va ouvrir une nouvelle page, Delange du côté de l'OM qui devrait être le gardien et Moridio qui serait pris au Havre et qui pourrait être le numéro 1?
En tout cas, quand tu es directeur sportif de ton club et que tu choisis de changer de gardien de but, c'est-à-dire que c'est en l'occurrence parce que ton gardien ne t'a pas donné satisfaction. Alors, Elton a cité plusieurs exemples. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence, par exemple, entre ce qui se passe au Paris Saint-Germain où est-ce que tu décides d'aller chercher Suzuki. Alors, est-ce que Suzuki serait numéro 1? Est-ce que Safonov redeviendrait numéro 2? Aujourd'hui, c'est vrai que Safonov a fait une très belle saison et notamment, en fait, personne ne l'attendait forcément à ce niveau-là. Tu es d'accord avec moi, il y a quand même une marge de progrès pour Safonov. Et si le Paris Saint-Germain veut arriver à aller chercher une troisième Ligue des Champions, on parlait un petit peu des départements, en tout cas des
axes d'amélioration.
Exactement, et je pense que le poste de gardien de but en est forcément, pas forcément, mais en tout cas pourrait être une piste à explorer. Alors quid maintenant du cas Lucas Chevalier, ça c'est une autre histoire. Par rapport à l'Olympique de Marseille, tu l'as dit aussi sur Rulli, c'est aussi une histoire d'aspect financier parce que on sait qu'il prend un gros salaire, on sait qu'il lui reste un an de contrat, donc c'est vrai que de lui donner la chance de pouvoir partir dans un projet comme Manchester City pour un gardien de 34 ans, même pour lui, je pense que c'est top. Donc c'est vraiment deux dossiers complètement différents. Moi, vraiment, si je veux parler d'un dossier qui m'a vraiment chagriné, c'est le cas Hervé Kofi du côté d'Angers, enfin du côté de Lens, tu t'en as parlé. Quand je vois la saison qu'il a fait du côté du SCO Angers et qu'aujourd'hui il se retrouve à signer à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui est un très bon club.
Mais c'est un gâchis pour la Ligue 1.
Il y a un problème, il y a un problème dans le recrutement, il y a un
problème. Pourquoi Lille n'y est pas allé? Il avait d'ailleurs joué à Lille il y a quasiment 10 ans.
Oui, il y a quasiment.
Et donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on n'ait pas donné la chance à un gardien comme Hervé Kofi.
C'était Lens le club.
Ouais, pour le coup, c'est,
non, mais parce que Lens y a Risser, donc là Lens n'a pas besoin de chercher un gardien.
Voir Lens vendre à Lille, c'est un peu
toujours
compliqué.
Un peu compliqué, mais après
ils en veulent pas. Lens. C'est ça la réalité. Enfin, ils en veulent pas. Ils ont Robin Risser qui est très bon et Kofi n'est pas dans leur plan. Là, ils l'ont prêté avec option d'achat. Donc l'histoire va peut-être se terminer.
Mais tout comme les joueurs, c'est-à-dire le poste de gardien de but est un poste à part, bien évidemment, mais ça fait aussi partie des axes d'amélioration de certains clubs. C'est le cas peut-être pour le Paris Saint-Germain, pour l'Olympique de Marseille. Et t'as pris l'exemple de Robin Risser. Mais quand un gardien fonctionne bien, et ben t'as pas tendance à changer. Donc voilà, ça fait partie aussi aujourd'hui du football moderne. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Elton, pour avoir été un défenseur, c'est important de garder des automatismes avec ton gardien de but. Et on sait que les automatismes, eh bien, ça prend du temps. Et parfois, il faut 2, 3, 4 saisons pour que ça fonctionne entre tes défenseurs et ton gardien de but. Maintenant, c'est la réalité du football moderne avec énormément de transferts rentrants, transferts sortants. Je suis d'accord aussi avec toi dans la mesure où je ne pense pas que ça aide forcément les clubs à performer aussi rapidement lorsque tu as du changement à ce poste-là. Mais voilà, il faut l'accepter. Et ça fait partie, je le répète encore une fois, du football moderne.
Le fait est que si on a parlé de Kofi beaucoup de fois la saison dernière et qu'on l'a présenté parfois comme le gardien le plus régulier de Ligue 1, c'est précisément parce qu'il y a une baisse de niveau chez les gardiens de l'élite, enfin chez les gardiens du haut de tableau. Et ça, c'est pas forcément la chose la plus rassurante parce que il y a une dizaine d'années, on n'avait pas forcément ça. On avait une certaine stabilité qui est apportée de l'excellence.
Et on rappelle que Kofi, qui avait été prêté par Lens à Angers l'été dernier, Angers avait voulu mettre une option d'achat, mais la DNCG avait refusé. Exactement. Parce qu'ils étaient interdits de recrutement. Et à l'issue de la saison, Lens a demandé une somme beaucoup trop élevée pour Angers, donc il est parti. Et finalement, donc il va continuer en Belgique. Il va jouer la Ligue des Champions, mais c'est vrai que pour nous, c'est une perte parce qu'en Ligue 1, il aurait eu sa place et notamment à Lille.
Tu m'as dit Lille, ça aurait été super.
C'est deux postes différents lorsque tu joues. Et on a pris le cas d'Hervé Kofi, c'est la même chose avec Anthony Lopez. Quand tu joues dans un club comme le SCO Angers ou comme le FC Nantes l'année dernière.
T'es beaucoup plus sollicité.
Exactement, t'as quand même énormément d'arrêts à faire. C'est pas forcément le cas lorsque tu es dans une équipe dominante ou est-ce que t'as tendance aussi à avoir souvent le ballon dans les pieds. Donc c'est quand même, alors c'est le même poste, mais c'est deux jobs complètement différents. Il faut voir Kofi comment il se serait adapté sur une équipe de haut de tableau en France, même si ce qu'il nous a montré à Angers me laisse croire et me laisse penser qu'il aurait forcément performé et que ça aurait été vraiment une bonne pioche pour un club français.